Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Vertigo. On va passer aujourd'hui une heure en compagnie de Quentin Mouron et nous allons parler avec lui de son dernier roman, Vesoul, le 7 janvier 2015, publié chez Olivier Moratel. L'histoire commence ainsi, Saint-Preux, un jeune cadre de la finance, prend le narrateur dont on ne connaît pas le nom en autostop. Les voici arrivés à Vesoul où le conducteur se rend en congrès, ils se retrouvent aussi dans un festival de poésie, ils seront attaqués par des nains, ils danseront le voguing, ils seront Charlie et croiseront le jeune François, lycéen, un futur compagnon de route. C'est ce qu'on appelle un roman picaresque. On va en parler tout de suite avec Quentin Mouron. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Lynn Lévy, avec elle nous poursuivrons notre exploration de ce livre monde, comme on a coutume de le dire, sexe, race et colonie.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez où?
À Vesoul.
Ah bah moi aussi, montez.
De ce quartier de Paris, 11e arrondissement, devant le siège du journal Charlie Hebdo, journal satirique bien connu. Deux hommes, trois hommes, c'est encore incertain évidemment, ont fait irruption dans le journal.
C'est eux les nazis, Walter?
Non, Denis, ces mecs sont des nihilistes. N'aie pas peur, ça craint rien.
Ça nous est égal. On va vous massacrer la gueule.
C'est vous les nihilistes, vous merde.
La question est aujourd'hui posée. L'écrivain Aragon est-il redevenu fréquentable?
Après tout, stalinien, il y en a d'autres qui l'ont été, seulement ils n'ont pas écrit la semaine sainte.
Je peux pas choisir entre mon chat, mon chien ou quelqu'un qui m'est proche parce que je vais toujours faire l'effort de réfléchir à la place de celui qui va souffrir.
Moi, j'en dis que si vous me posez la question et que je dois choisir entre mon chien et mon fils, je vais choisir mon fils.
Sur quels critères? De nouveau, c'est une forme d'égocentrisme, ça.
Vertigo, jusqu'à 18h.
T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
Sur la première.
Sur la première.
Vesoul, désormais centre du monde, Quentin Mouron?
Bien sûr, tout se passe à Vesoul, tout est dans Vesoul et Vesoul est dans tout.
Voilà, c'est un peu ce qu'on peut se dire à la lecture de votre livre. Vesoul, le 7 janvier 2015, un roman court, bref, nerveux, dans lequel nous irons d'aventure en aventure. C'est ce que l'on appelle un roman picaresque, c'est ça?
Oui, le roman picaresque est ce genre espagnol qui a connu en tout cas ses notes de noblesse en Espagne au XVIe siècle, qui a été repris ensuite dans le Gil Blas notamment au XVIIIe siècle. Mais c'est vrai que c'est vraiment à la base espagnol.
Et c'est Cervantes.
Cervantes pas tellement,
non, pas
justement,
tellement.
Mais on l'associe souvent au roman picaresque parce qu'il y a quelque chose dans le mouvement, il y a quelque chose dans l'élan, dans l'entrain, dans la fantaisie qui rappelle le roman picaresque. Mais au fond, Don Quichotte, c'est plutôt la parodie du roman chevaleresque. Tandis que le roman picaresque, c'est vraiment mettre à l'honneur un déclassé, quelqu'un qui est en rupture avec le monde, en rupture avec la société, un paria, comme on dit, et qui vit des aventures de paria. Alors là, bien sûr, j'ai inversé un petit peu les termes, puisque finalement, les picaros dont ils sont question, les picaros modernes, sont des gens qui maîtrisent au contraire les codes du monde, qui font corps avec le monde et qui sont extrêmement considérés, non plus déconsidérés ou déclassés, comme c'était le cas des picaros espagnols.
Eux, ce sont les nomades, les autres, les déclassés, ce sont les sédentaires, ce sont les gilets jaunes, en fait, c'est un peu ça.
Oui, ce sont les gilets jaunes, certainement, c'est-à-dire ceux qui peuvent pas bouger. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dit ils bloquent la France, mais au fond, ce sont eux qui sont bloqués particulièrement. Ils bloquent pas tellement la France, puisque les capitaux peuvent continuer à circuler, les entreprises peuvent continuer à se délocaliser. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ce sont les gens qui souffrent aujourd'hui en France. Ce sont les gens qui souffraient déjà en France en 2015, puisque c'est là au moment où se passe cette intrigue. Et ce sont tous les gens qui n'ont pas accès aux bienfaits de la mondialisation, c'est-à-dire ceux qui sont sédentaires parce qu'ils sont obligés de rester où ils sont, soit ceux qui sont sédentaires aussi, on parle de migrants, mais au fond c'est une expression extrêmement fausse, parce que ce sont des gens qui auraient bien aimé rester chez eux, mais qui ont été par les circonstances poussés sur les routes, et ils se trouvent bien sûr ils prennent pas la route comme le Mépicaro, comme le cadre du Crédit Suisse, ils prennent la route de manière extrêmement chaotique et souvent meurtrière.
Alors vos héros sont donc des nomades. Le héros, le narrateur de ce roman, Quentin Mouron, lui, il fuit l'administration. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Alors il fallait un point de départ. Il faut toujours un point de départ pour ce genre d'aventure. Plus c'est un prétexte, mieux c'est. Ça évite de tomber dans un espèce de pathos sérieux. Là, c'est la protection civile. Alors je rassure tout de suite mes supérieurs. Je survis généralement d'année en année. Je me décompose un petit peu. C'est généralement une longue gueule de bois. Après, il faut me remettre quelques jours. Mais je survis. Donc moi-même, je ne vais pas quitter la Suisse à cause de la protection civile.
Et il quitte, lui, quand même la Suisse. Il fait de l'autostop. Il est pris en stop par un cadre de la finance qui se rend rend dans un congrès à Vesoul. Alors là, ils vont vivre évidemment plein d'aventures, toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, abracadabrantesques même, oserait-on. Donc je le disais, un festival de poésie dans lequel ils vont rencontrer des gens assez étonnants. Ils vont danser le voguing, une danse qui revient en force. Ils seront attaqués par des nains. Ils seront Charlie, finalement, puisque effectivement le roman se déroule dans ce laps de temps qui précède les attentats, l'attentat contre Charlie Hebdo. Cette idée du roman, elle vous est venue à quel moment, Quentin Mouron? Précisément au moment des attentats contre Charlie?
Un tout petit peu avant, pour être honnête. C'est vraiment le livre sur lequel je travaille depuis... c'est un livre sur lequel je travaille depuis 4 ans environ. C'est-à-dire que j'ai jamais mis autant de temps à écrire un livre. Il a fallu trouver la bonne tonalité, il a fallu trouver un langage particulier, il a fallu trouver des éléments qui soient convaincants. Il a fallu vraiment trouver un ton. Et ça a été très compliqué. Donc le livre a été commencé un tout petit peu avant les attentats de Charlie Hebdo. Et puis finalement, il y a eu cet événement tragique qui... au début n'était pas inséré dans le roman, donc le roman aurait pu se faire sans ces attentats, mais finalement c'est devenu une sorte d'obsession, une sorte de point de convergence pour toutes sortes de raisons, notamment pour le côté paradoxal au fond qu'il y a eu, et un peu grand-guignolesque, avec après les attentats, bien sûr, les attentats n'avaient rien de grotesque. Ce qui était grotesque, c'était le traitement qui en était fait. On peut penser à la marche des dictateurs, faut bien l'appeler comme ça, c'est-à-dire des chefs d'État vaguement corrompus, parfois dictatoriaux, qui se sont retrouvés pour célébrer la liberté d'expression à Paris. Ça a été aussi... finalement cette explosion de Je suis Charlie avec ce célèbre hashtag tout le monde était Charlie, mais deux mois plus tard il a quand même, quelques mois plus tard on se demandait s'il fallait quand même pas interdire un peu certains articles de Charlie Hebdo, donc au fond toute cette hypocrisie, tout ce grotesque est vite devenu une sorte de boussole sur laquelle où j'ai pu m'aiguillonner et pour garder le nord en quelque sorte, puisque ce qui était difficile quand on erre, les personnages ont l'air d'être dans une libre errance, mais pour l'auteur ce qui est difficile c'est de leur faire justement garder un cap.
De quoi est-ce le symbole au fond, tout ce qui s'est passé après les attentats, l'attentat contre Charlie en particulier?
Alors, c'est déjà, il faut bien revenir aux attentats eux-mêmes, je pense. Ce qui était étonnant pendant les attentats, c'est qu'au fond on a vu, c'est pas des attentats qui ont été perpétrés par des déséquilibrés comme on voit, hein, on entend ce terme qui est aussi un terme à la mode au fond, des déséquilibrés qui ouvrent le feu, qui poignardent, qui lancent des camionnettes contre des marchés de Noël, ça c'est devenu presque courant malheureusement. Là c'était un attentat extrêmement préparé, non pas par l'État islamique comme on le dit parfois, mais par Al-Qaïda qui eux-mêmes promeuvent ce nomadisme, c'est-à-dire que contrairement à l'État islamique, ne cherchent pas à créer un État, ils sont au contraire pour une sorte de mouvement maximal à travers le globe, c'est-à-dire on doit pouvoir, selon leur canon et selon leurs critères, être capable de frapper diverses positions dans le monde entier, c'est-à-dire qu'ils font leur, au fond, les valeurs dominantes de Mipicaro, justement, et de la mondialisation, qui est le mouvement, le fait de pouvoir être n'importe quand, n'importe où, d'avoir des relais un peu partout dans le monde. Et donc là, il me semble qu'il y avait une sorte de mise en abîme un peu curieuse du phénomène de la mondialisation, sous un angle un peu plus noir, qui est celle du djihadisme international.
Qui vit aussi beaucoup sur les réseaux.
Voilà,
comme
exactement.
Vous le dites aussi, effectivement, dans votre livre.
Voilà, qui n'échappe pas à la mode, ouais. qui n'échappe pas du tout à la mode. Même quand l'État islamique a utilisé ses uniformes noirs, c'est devenu la marque de fabrique, mais ça c'était déjà fait par la SS qui sous la signature du Gobos il y a déjà presque 60 ans, et c'était aussi des raisons de mode, il fallait que l'uniforme impressionne, c'était donc ça me semble assez intéressant déjà et assez symptomatique d'une époque parce que au fond ce qui se passe pendant ces attentats de Charlie Hebdo, c'est vraiment une sorte de concentré. Il y a beaucoup de choses. Le fait que des caricaturistes, parce que c'était un journal qui ne vendait plus grand chose quand ils ont été frappés par les attentats, qu'un journal humoristique soit suffisamment pris au sérieux, et là déjà on voit un oxymore, ou une antithèse, par des gens qui venaient de je sais pas où, alors s'ils étaient peut-être français, mais ils ont été formés au Pakistan, je sais pas où, on leur dit « allez à Paris, frappez un journal satirique », c'est quand même assez fou. Là on est déjà dans une sorte de folie qui est une sorte de mécompréhension à la fois totale de l'humour, une prise au sérieux terrible, et finalement peut-être que simplement que c'est simplement des bons lecteurs, c'est-à-dire des gens qui lisent au pied de la lettre, il y en a beaucoup même, et c'est peut-être leur charme, si on veut leur trouver un charme, c'est-à-dire qu'ils lisent véritablement au pied de la lettre ce qu'écrit Charlie Hebdo.
C'est un monde très binaire, au fond, dans lequel ces gens évoluent et dans lequel vos personnages évoluent également, puisque même regardent le monde de cette façon-là, 0, 1, un mode binaire. Ils sont en mouvement, les autres sont soit ivres-morts, pétés au vin d'Arbois dans un bar pourri de Vesoul, soit défendent chacun leur prérogative, qu'ils soient nazis et revendiquent le droit de porter l'uniforme tout en n'ayant rien contre les juifs, ni les tziganes, ni les homosexuels, qu'ils soient et n'est rien contre les grandes personnes. Enfin, c'est un monde binaire, au fond, que vous nous présentez dans ce livre.
Mais je crois que c'est un monde binaire qu'on a pu voir se mettre à l'œuvre pendant les attentats de Charlie Hebdo, justement. Il y avait, de notre point de vue, le mal absolu qui a frappé le bien absolu, c'est-à-dire la liberté d'expression, le droit de s'amuser, le droit de se moquer, le rire, la légèreté, contre la gravité des barbus enturbanés. Ça, c'était aussi une appréciation binaire. Et puis, si on va de l'autre côté, si on va du côté du Pakistan, eh bien, c'est l'inverse. C'est les satanistes qui osent représenter le prophète contre les sauveurs, contre les saints, contre les martyrs. Dans l'idée même du djihad, il y a, bien sûr, cette compréhension du monde binaire, mais aussi dans l'idée des célébrations. Alors, je mets pas les choses sur le même plan, hein, mais il y a dans cette idée des célébrations qu'il y a eu après Charlie, au fond, tous ces dictateurs qui sont venus commémorer le bien absolu, c'était aussi une illustration assez grotesque.
Et alors pourquoi Vesoul ?
C'est une excellente question. Je crois que j'avais envie d'un endroit qui à la fois ne dise rien à personne, mais qui en même temps dise quelque chose à tout le monde. Je m'explique, la formule semble un peu paradoxale.
Brel ne l'aurait pas chanté, vous ne l'auriez pas choisi ?
Sans doute pas.
Ouais.
Parce que Vesoul est un mot qu'on a tous entendu, c'est une des chansons de Brel les plus connues. Hein. Je crois que si on va sur Spotify, on voit qu'elle est dans le top 5, donc tout le monde a entendu parler de Vesoul, mais personne n'y est jamais allé. C'est au fond qu'on a un énorme signifiant et puis un signifié qui est tout petit. C'est-à-dire tout le monde sait voit que Vesoul est une ville. Hein. C'est pas du tout comme ces bleds, le bled paumé dont je m'en rappelle plus le nom, qui a défrayé la chronique puisque le prochain roman de Houellebecq en parle. Moi, j'en avais jamais entendu parler, peut-être que vous non plus. Là, Vesoul, c'est le contraire. Tout le monde a entendu parler de Vesoul, personne n'y allait, à part moi. Et ça permet justement de jouer sur ce côté, cette phrase que j'ai citée tout à l'heure qui est dans le livre, c'est-à-dire tout est dans Vesoul et Vesoul est partout.
Vesoul, c'est aussi, donc outre la chanson de Brel, l'occasion pour vous de citer quasiment toutes les 5 pages L'Est républicain, qui est le quotidien du Grand Est en France, en imaginant quelques phrases extraites d'articles de presse de L'Est républicain qui parleraient de telle ou telle manifestation. Et il y a toujours beaucoup d'ironie dans vos propos. Ce regard que vous avez sur la presse, c'est ce regard-là que vous avez sur la presse, c'est-à-dire on va au plus vite, on écrit des banalités et des poncifs, quel que soit le genre d'événement. C'est aussi votre regard à vous, Quentin Mouron ?
Oui, je crois que c'est mon regard à moi. D'ailleurs, ce que je mets sous la plume de L'Est républicain, je l'ai parfois mais je l'ai parfois repris dans des journaux qu'on connaît bien, qui sont plus proches de nous. Je pense au 24 heures, ou bien je crois que j'ai repris, par exemple, quand je parle d'un bar un peu très bobo, comme ça. Là, je reprends quelque chose qui était dans le temps. Là, j'ai carrément copié-collé, parce qu'au fond, bon, s'ils veulent me faire un procès, ils le feront. mais disons, là, il m'arrivait vraiment de copier des éléments de discours médiatiques. Et puis, j'en ai inventé, bien sûr, quelques-uns, où je reprends justement, en effet, ce langage un peu poncif, parce qu'au fond, c'est pas parce que les journalistes sont bêtes ou parce qu'ils sont devenus bêtes, c'est pas forcément parce que les lecteurs sont bêtes, mais c'est que le temps a été compressé. Et le temps, il a été compressé au sens propre, mais disons...
Comme tous les journaux en ce
moment. Oui, voilà, mais disons le temps à disposition pour les journalistes pour réagir est bien sûr compressé. Moi aussi, si on me demande de réagir à quelque chose dans la minute et on me dit, mais là, t'as 10 concurrents, si tu sors pas l'info maintenant, il va falloir que... c'est pas nous qui aurons le scoop. C'est clair que je vais écrire de la merde. C'est évident, je vais écrire des poncifs, je vais reprendre des mots qui sont déjà faits, simplement. Ouais. C'est comme si je dois... j'ai envie de me faire faire... Je dois sortir et on me dit, dans une demi-heure, tu dois être prêt, je vais pas aller me faire un veston sur mesure, je vais aller prendre un truc prêt à porter, je vais prendre un vieux truc dans mon placard, je vais le remettre, je vais essayer de le dépoussiérer un peu et puis de faire semblant que c'est une nouvelle tenue, parce que j'ai pas le temps. Et je pense que cette compression temporelle dont est victime la presse et les lecteurs aussi par contre-coup, est en effet un problème, mais ça tient pas aux journalistes même qui, il n'y a pas de raison qu'ils aient perdu leur intelligence, peut-être certains, mais pas tous. Donc, à mon avis, c'est dû à cette compression-là. Et ça, c'était manifeste après, dans les minutes qu'ont suivi l'attentat de Charlie Hebdo, c'est-à-dire que c'est devenu la course aux scoops. Donc on n'avait pas le temps de parler, on n'avait pas le temps de réfléchir, on n'avait pas le temps de méditer un tout petit peu la situation, ou bien de se recueillir, ce qui aurait été la moindre des choses. Il fallait faire ces fameux lives qu'on fait peut-être aussi la RTS, où il faut absolument amener de l'information chaude le plus possible, et cette information ne peut pas être traitée, et donc on tombe dans les travers de langage qui sont dénoncés ou moqués, en tout cas dans le livre.
Et puis ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'au fond, en disant cela, Quentin Mouron, et en l'écrivant dans ce roman, Vesoul, le 7 janvier 2015, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'on n'a plus le temps d'expliquer le monde, et qu'on est face à des situations ou des groupes de personnes qui ont des revendications, qu'on ne voit pas surgir, ce qui a été le cas avec les Gilets jaunes, mais j'imagine que par le passé et dans le futur, ce sera également le cas. Et de ce fait, on pointe les médias du doigt avec un défaut d'explication du monde. Et ce que vous nous dites là, en mettant le monde dans Vesoul, c'est de l'absurdité totale de ce monde qu'en fait, on n'arrive jamais à expliquer vraiment. Et quel que soit le rôle de la presse par ailleurs.
Alors de toute façon, je pense que l'explication du monde, elle se fait déjà toujours a posteriori, elle se fait pas sur le moment. On peut énoncer quelques symptômes, on peut tenir un discours pertinent, mais on est toujours dans... Pour avoir une réflexion viable, il faut pouvoir le faire tranquillement. Et ça, c'est évident à mon sens. Donc au fond, la presse n'est pas tout à fait responsable de ça, même si c'est clair que... Il y a bien sûr un certain aveuglement par rapport aux gilets jaunes. Il a fallu un peu de temps, il a fallu que des voitures brûlent pour que les gens se rendent compte qu'il y avait quelque chose. Et moi, je discutais encore avec des journalistes parisiens juste avant qui me disaient « mais j'ai entendu parler d'un truc vers la gare de Lyon, mais je sais pas, il paraît qu'il y a des gens qui sont pas contents, mais je crois que c'est plutôt en province ». Enfin, il a fallu un petit moment avant qu'on comprenne, parce que là, je pense que ça aussi, il y a peut-être une déconnexion. Mais qui est toujours une déconnexion relative, parce qu'au fond, les journalistes ne vivent pas dans un autre monde. Ils prennent le métro, ils prennent le train, ils voient ce qui se passe, et peut-être plus que d'autres encore. Mais je pense que là aussi, on est dans cette... où il faut réagir vite, il faut absolument meubler. On l'a eu aussi, après tous les attentats majeurs, on a toujours des spécialistes, et on se demande ce qu'ils viennent faire là. Ils sont sur ces fameux lives qu'on organise sur les chaînes d'information. Et au fond, on voit bien qu'ils ont rien à dire. Ils ont rien à dire tout simplement parce qu'ils ont aucune information. Ils savent rien. Ouais. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le temps leur manque pour pouvoir préparer un discours. Donc, comme ils sont payés et qu'ils sont quand même censés dire quelque chose, eh ben, il y a quelques platitudes qui sortent. On mélange un peu les époques. On fait des croisements. On sait plus trop. Et ça, cette espèce d'aveuglement qui gagne sans doute une partie de la presse me semble vraiment venir du fait qu'on ne prend pas le temps d'expliquer les choses. Et peut-être que si j'ai moi-même tenté une tentative d'explication du monde, c'est aussi parce que j'ai mis 4 ans à écrire ce livre et que j'ai pas eu un live à remplir.
C'est ça. Quentin Mouron, le roman s'appelle Vesoul, le 7 janvier 2015, publié chez Olivier Moratel, éditeur. Je l'ai dit, dans ce roman, vos héros vont vivre beaucoup d'aventures. Ils vont notamment danser le voguing qui revient en vogue. J'ai pas d'autre mot là qui me vient à l'esprit, c'est le cas avec Kiddy Smile, le voici.
Come on my days, trying hard to get your attention, but it ain't working, yeah. I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. We'll be right back.
Be Honest, c'est la chanson choisie par François Piton pour illustrer l'un des événements de votre roman, Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier 2015. Il s'agit de voguing, cette danse popularisée par Madonna, notamment dans Vogue. C'était bien ça, non, le titre de Madonna? Enfin, peu importe.
Je crois.
Ouais,
je crois.
Ça, oui, c'est ça. On me confirme que oui. Ça s'appelle Be Honest. Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier 2015, roman publié chez Olivier Moratel. Vos héros, on le rappelle, se retrouvent à Vesoul. L'un est pris en autostop par un jeune cadre de la finance. Il s'appelle Saint-Preux, ce jeune cadre. Le narrateur est pris en autostop et le voici donc arrivé à Vesoul. Il fuit la bureaucratie helvétique et le conducteur de la voiture, lui, se rend en congrès, un congrès bancaire à Vesoul. Et tous deux vont vivre des aventures absolument incroyables dans un monde délirant, une sorte de carnaval dans lequel se succèdent des personnages tous plus incroyables les uns que les autres, avec beaucoup de violence sous-jacente dans ce monde que vous nous décrivez, puisque Vesoul est le monde et tout le monde est à Vesoul. Et puis, beaucoup de sentiments un peu mitigés par rapport à vos personnages, Quentin Mouron. Vous savez, il y a cette histoire des critiques de cinéma qui n'aiment pas certains films parce que le réalisateur n'aime pas ses personnages ou les maltraite. Et vous, vous maltraitez beaucoup de gens dans votre roman. Il y a un petit peu de misanthropie en vous. Vous êtes le misanthrope aujourd'hui.
Bon, je crois que les critiques de cinéma sont quand même souvent idiots. À mon sens,
cette phrase est enregistrée pour l'éternité, je vous le signale, et nous la rediffuserons abondamment.
C'est pas grave, j'ai pas l'intention de me lancer dans le cinéma. Non, moi en tout cas, quand j'écris un roman, j'organise pas une garden party, donc j'ai pas besoin d'avoir des amis pour la vie justement qui arrivent, j'ai pas besoin de leur caresser les cheveux et de lui dire « ma belle, comment tu vas ?» Donc c'est pas une nécessité pour moi. Je sais pas, peut-être que je suis misanthrope, mais je crois pas. Je crois que mes proches me voient pas comme quelqu'un de misanthrope. Je crois que je peux même être assez généreux, assez empathique. Mais mes personnages sont des gens que j'ai créés, ce sont des êtres de papier, ce sont pas du tout je tombe pas dans cette illusion réaliste, un peu misérabiliste, où on essaie de faire vivre les gens, on les regarde avec douceur, avec tendresse. Moi, ça m'intéresse pas, la douceur et la tendresse. Quand je suis dans l'écriture. Ailleurs, c'est différent. Donc, pour ma part, vraiment, j'invite pas des potes. Donc, c'est normal que je me moque d'eux. Je me moque de... Ce sont aussi des types, ce sont des caricatures. Donc, je me moque de ces caricatures. Au passage, le narrateur est un narrateur interne, un narrateur en jeu. Ce jeu renvoie quand même à une sorte de déformation, presque à une caricature de moi-même. Donc, je me moque aussi de moi-même au passage. Mais
quand, par exemple, vous citez les grands penseurs véganes de notre temps, Aymeric Caron, Pierrick Destrat, par exemple.
Oui, ça, ce sont des personnages médiatiques, des personnages publics. C'est-à-dire que là, je m'embarrasse pas trop quand quelqu'un est public et apparaît toutes les deux semaines dans un journal.
Il a le droit à la caricature.
Il a le droit à la caricature. Ouais. Et puis là, en plus, c'est dans une parenthèse. Je cite quelques intellectuels ou quelques penseurs ou quelques, je ne sais pas comment les appeler, ou agitateurs,
militants.
Peu importe, militants. Ça fait partie aussi de l'écriture. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans La Combustion Humaine, où je citais des auteurs romans qui existent et qui ont une existence médiatique aussi. Donc ça, je m'embarrasse pas tellement de ce genre de considérations éthiques. S'ils veulent discuter avec moi, si ça leur plaît pas, ils peuvent toujours m'écrire. Je répondrai pas, certainement.
voilà qui est dit. Mais je voulais vous poser la question parce que sur votre site, sur lequel on retrouve quelques papiers que vous avez écrits pour la presse ici et là, vous parlez de Milan Kundera et notamment à l'occasion de son dernier roman publié. Ce roman, il est sorti il y a quelques années déjà. C'était en 2014. Il s'appelle La fête de l'insignifiance. Et vous questionnez la sincérité au fond du journaliste face à l'auteur et notamment sur les personnages de Kundera. Et Kundera répond toujours en disant, mais en dehors du roman, tout le monde est sûr de sa parole, qu'on soit politicien ou concierge, on est sûr de ce qu'on dit. En revanche, dans le roman, on s'en barrasse pas de ça, c'est tout le territoire des hypothèses, on en fait ce qu'on veut. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Dans le roman, on fait absolument ce qu'on veut.
Oui. C'est un espace de liberté, et il en reste plus beaucoup, puisque je crois que les gares sont non-fumeurs déjà depuis quelques heures. Donc, vous voyez, on doit quand même recomposer ces espaces de liberté-là, et le roman, c'est en effet un espace de liberté. On fait ce qu'on veut, on colle des choses, on emprunte des choses aussi, mais arriver de... On dit plagier, c'est en fait
citations.
Une mauvaise... Quelques citations, ouais. J'ai repris par exemple, je crois qu'au début, je dis tous les cadres sont un peu transgressifs, ça fait partie du métier. Ça s'est repris, sauf erreur, de Voyage au bout de la nuit, où Céline dit aussi, je sais plus exactement la phrase, mais finit par, ça fait partie du métier, ça c'est quelque chose que je reprends, c'est quelque chose que j'ai fait souvent, c'est des clins d'œil à des auteurs que j'aime, qui m'ont marqué ou qui ont un rapport avec le livre. Donc je crois que c'est vraiment un espace de liberté. Certains l'ont payé cher, cet espace de liberté, parce que même au sein de l'écriture, il y a un an à peu près est décédé un auteur malien que j'aime beaucoup, qui a écrit un seul livre, et pour cause, Yombo Wologem, qui a eu, sauf erreur, je crois, le prix Renaudot avec Le Devoir de violence. Et puis, on l'a accusé de plagiat. Lui a dit, mais j'ai pas du tout plagié, j'ai simplement collé certaines choses, que ce que faisait Blaise Cendrars depuis une cinquantaine d'années, ce que faisaient d'autres auteurs proches du surréalisme. Mais quand on voit l'esthétique de Yombo Wologem, on voit bien que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'il est en train de faire, un collage, un acte esthétique. Mais bon, il était malien, il était noir en France, dans les années 60, 70, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a dit,
il essaie de plagiat. On n'a pas compris l'intention et on a...
Voilà. Son éditeur a retiré retiré le livre des librairies. Et l'auteur a sombré dans une intense dépression dont il s'est jamais remis, il a jamais réécrit de livre. Donc ce genre de choses-là, c'est aussi ça s'est gagné au fil des siècles, cette possibilité d'être libre dans le roman. Et j'ai l'impression qu'elle est très sous-estimée aujourd'hui, où je moquais tout à l'heure le roman un peu misérabiliste, mais on se met énormément de contraintes qui n'existent pas, et qui existent au fond depuis un moment précis qui est le 19e siècle. Et on est encore sous l'emprise du roman du 19e siècle, c'est-à-dire que pour nous un roman, c'est Balzac... En fait, ou l'image qu'on a de Balzac, parce que Balzac écrit aussi
c'est
des contes
drôlatiques.
Voilà, exactement. Et Balzac écrit des contes drôlatiques, écrit des choses qui ne tiennent pas debout, et il se fait plaisir dans ses descriptions. On dit il est objectif, pas du tout. Il arrête pas de ramener sa fraise, et c'est ce qui fait le charme de Balzac. Mais on est dans cette idée du roman qui doit absolument rendre compte précisément de certains traits. Les personnages doivent toujours avoir une profondeur. Mais ça, c'est une construction, c'est un préjugé. Quand Diderot écrit Jacques le Fataliste, il se fout de savoir s'il est dans une caricature ou non, s'il y a une chute qui est bien, si la fin est à couper le souffle ou s'il y a du suspense, il s'en fout, puisqu'il écrit simplement cette histoire complètement folle d'un type qui cherche vaguement l'amour et puis en même temps cette réflexion sur la fatalité. Pareil pour beaucoup d'écrivains du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIe siècle, où je tire quand même une bonne partie de mon inspiration pour ce livre, notamment chez Don Quichotte.
Est-ce que c'est pour ça que vous dites que ce roman-là est complètement différent de tout ce que vous avez pu écrire par le passé ?
Oui, je pense que ça marque un tournant, en tout cas, dans ma production, dans ma réflexion aussi. C'est vraiment le début aussi de nouvelles aventures, picaresques, je l'espère, puisque c'est le premier volume d'une trilogie. Même si il n'y a pas de suite, donc puisqu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas non plus une fin haletante, mais oui, je pense que ça marque vraiment une rupture. C'est-à-dire que c'est aussi, même s'il y a des thèmes qui reviennent, il y a des choses dans l'écriture qui reviennent, on est quand même dans une réflexion nouvelle sur l'acte d'écrire aussi, sur la liberté. Je pense que c'est en tout cas le roman, même si c'est celui qui m'a demandé le plus de travail, où finalement je me sens le plus libre.
C'est aussi un roman qui interroge les mots et les expressions de son époque. Moi, j'ai découvert le validisme, par exemple. Le validisme, c'est l'oppression que peuvent ressentir des personnes handicapées, non, non handicapées face à des handicapés, c'est bien ça?
Non,
c'est l'inverse.
Non, c'est des personnes handicapées ou en situation de handicap, comme on dit, face, en effet, à des gens qui seraient considérés comme valides. Ou c'est le fait de se moquer de certaines, on appelait ça des tares, on dit plus tout à fait ça, mais certains handicaps, oui.
Voilà, le validisme, c'est se moquer des dieux du village, en fait, c'est ça.
Voilà, par exemple, sorte, ça, voilà. Typiquement.
Alors, il y a le validisme, dédiaboliser aussi, le mot lange qui revient assez souvent. Validisme, dédiaboliser, lange, ce sont les mots de l'époque, selon vous? Ça fait partie, en tout cas, évidemment, des mots d'époque.
Oui, ça fait partie, mais j'ai essayé de réinvestir ce vocabulaire d'époque, parce que je pense que pour dire le monde, il faut aussi le faire dans les mots du monde, le faire avec un peu de distance, d'où l'emploi de l'italique. J'aurais pas voulu essayer de créer une illusion, ça aurait de nouveau été cette illusion réaliste que j'essaie de parler comme le monde. Je ne parle pas comme le monde médiatique, par exemple, mais je peux en donner une image, en quelque sorte, en utilisant justement les italiques. Pour moi, c'est important aussi de travailler aussi sur le langage, et ça a été une des grandes difficultés du livre, c'est aussi de faire ce travail sur le langage, c'est-à-dire essayer m'approprier ce langage qui est le langage de l'époque, avec tout ce que ça a comme... comme ridicule, parce qu'il faut bien voir que les mots s'usent aussi, comme les choses. Et donc, quand on utilise un mot comme ça, quand on l'utilise trop souvent, une disruption, par exemple, qu'on voit dans tous les articles de presse qui se respectent, en tout cas, une fois...
Impacté, disruption...
Voilà, impacté, tout ça, ce sont des mots qui s'usent et au bout d'un moment, ils n'ont plus aucun sens. Et donc, on perd complètement le sens de base, le sens originel, et puis, ça devient des espèces d'objets qu'on pose comme ça, et quand on les aboute, quand on en prend suffisamment, on arrive à construire un mur. Mais ça, c'est pas une passerelle, c'est un mur.
Oui, parce qu'il bloque aussi la pensée, parce que on les retrouve partout, parce qu'on les emploie à tout bout de champ et à tort et à travers souvent aussi.
Voilà, oui. Exactement. Hein. Et les modes changent, mais au fond, il faut bien voir que la mode, même si c'est quelque chose qui se produit dans un espace temporel restreint, ça s'installe quand même. Ça, on a le temps justement d'arrêter de penser quand une mode s'installe.
Là, vous pointez beaucoup de choses de notre époque, on l'a dit, c'est un roman bien dans son temps, qui se situe en janvier 2015. Est-ce que les romans suivants, ceux que vous avez prévu d'écrire après celui-ci, qui remettront en scène les trois personnages, parce qu'à la fin, ils finissent en trio, partir dans la voiture du banquier, est-ce que là aussi, pour vous, il va s'agir de continuer d'explorer l'époque, ou est-ce que vous savez déjà que vous irez dans une voie complètement différente ?
Alors je vais continuer à explorer l'époque. D'ailleurs, je vends un peu la mèche, mais la première scène, alors peut-être que tout changera, c'est encore un chantier. Mais du prochain livre que j'espère pouvoir publier d'ici une année, commence sur un barrage autoroutier par des gens qui portent des gilets fluorescents. Ça nous rappelle quand même une certaine actualité, et c'est bien sûr là aussi que je vais mettre le doigt. Il n'y a pas une envie particulière d'aller en France toujours, mais il y a quand même quelque chose qui se passe aujourd'hui en France qui me semble utile et très intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui se passe en France aujourd'hui avec ces inégalités sociales, avec la perte du pouvoir d'achat, ça s'est passé dans d'autres pays d'Europe et ça se passe encore dans d'autres pays d'Europe. À la différence, c'est que les Français ont la réputation de râler un peu plus fort que les autres. Et au fond, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est simplement ce que beaucoup de Danois, d'Allemands, de Belges ont pensé, mais n'ont peut-être pas osé dire suffisamment fort. Et donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui en France est très intéressant, parce qu'au fond, le pouvoir d'achat en France est pas forcément plus faible, et même sans doute plus élevé qu'en Allemagne, où il y a moins de chômage, mais où il faut souvent avoir, si on n'a pas de diplôme, avoir deux jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc il faut travailler à plus de il faut travailler des heures et des heures pour pouvoir espérer vaguement payer un loyer. C'est aussi des situations très difficiles qui correspondent aux problèmes qu'on rencontre actuellement en France et que les Français, disons, rencontrent actuellement. Sauf que
ils l'expriment.
Oui, ils l'expriment. Peut-être parce que dopé par un espèce de modèle économique ou avec une présence rassurante qui est celle d'Angela Merkel, qui est beaucoup plus rassurante, il faut le dire, que les chefs d'État français qui se sont succédés, qui avaient toujours l'air un peu de guignol, qu'on savait, Angela Merkel, elle rassure, mais tout ce progrès économique allemand qu'on a vendu, par exemple, se retourne aussi contre les Allemands eux-mêmes aujourd'hui.
Alors, ce roman, je le rappelle, s'intitule Vesoul, le 7 janvier 2015. Il est publié chez Olivier Moratel. Olivier Moratel, qui fait force promo de votre livre, Quentin Mouron. Il se murmure que la presse française vous lit d'un œil agréable et que donc, d'ici peu, vous risquez d'être très présent dans les médias français. Est-ce que là, vous avez le sentiment aussi, avec ce roman-là, de sortir d'un terreau très local, même si vous avez écrit des polars, mais que tout à coup, là, les problématiques que vous empoignez à travers ce livre vont commencer à intéresser peut-être de façon plus large, même si vous êtes déjà traduit, on le dit aussi, en anglais, par exemple, pour d'autres livres.
Oui, alors en tout cas, c'est vrai que je sens une émulsion, je la sens pas par mon pendule, mais je la sens par l'attachée de presse parisienne qui travaille avec Olivier Moratel et qui est une femme super, qui a fait vraiment un travail aussi excellent de communication, et Olivier Moratel aussi, avec son énergie coutumière et son amour, je crois, du livre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Je pense que là, il y a une énergie entre nous trois, entre l'attaché de presse, Olivier Moratel et moi-même, et aussi le contenu du livre, qui fait que, en tout cas, le livre se profile bien dans les rédactions françaises. On a déjà quand même... c'est difficile de savoir parce qu'au fond, on n'a pas toujours les informations. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber qu'on n'attendait pas, mais on attend en tout cas quand même. Il y a eu des retours en tout cas positifs. Alors voilà, ça reste toujours du conditionnel, mais il y a déjà quelque chose qui semble vibrer dans certaines rédactions parisiennes.
Au-delà du contenu du livre, qui fait évidemment écho à l'actualité, est-ce qu'il faut de la chance aussi ?
Oui, il faut de la chance, bien sûr qu'il faut de la chance. Moi, j'ai rencontré Olivier Moratel dans un bar, donc c'est dire s'il faut de la chance. Et puis après, c'est devenu cette aventure commune, cette amitié, c'était ce travail et ce rapport d'estime aussi. Donc il faut de la chance, il faut aussi de la chance pour être lu, il faut de la chance, mais il faut aussi se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir aussi... non seulement déjà écrire le livre, écrire un bon livre, c'est déjà mieux. Et puis ensuite, après, avoir aussi les reins pour le porter, pour supporter aussi parfois le revers d'un certain succès, qui est de recevoir des messages incendiaires à toute heure du jour et de la nuit.
Vous est arrivé donc ?
Oui, ça arrive assez souvent. Ou alors des messages beaucoup trop tendres, mais d'inconnus, qui me parlent de leurs organes. Enfin, c'est étonnant. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais il faut pouvoir le supporter. Donc, je sais que certains n'y sont pas prêts. Fuit justement le côté communication. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai aucun problème à communiquer. Mais il faut bien sûr aussi supporter ce genre de violence-là.
La communication aujourd'hui, elle peut être très violente. Vous venez de nous le dire. Quentin Mouron, elle peut être aussi automatique. C'est le cas dans certaines scènes du roman où on s'échange ses adresses e-mail, on passe par LinkedIn, on est déjà en lien avec quelqu'un. Le réseau aujourd'hui, c'est devenu le mot qui décide de tout. Enfin, le réseau décide de tout aujourd'hui, absolument.
Oui, en tout cas, à une certaine échelle, c'est en effet quelque chose qui est devenu nécessaire pour se rencontrer, hein, que ce soit les réseaux de rencontres, les sites de rencontres, que ce soit pour faire sa promotion, c'est le cas notamment de réseaux comme Instagram, comme Facebook, que j'utilise beaucoup, peut-être à mauvais escient parfois, mais généralement j'essaie quand même de l'utiliser à bon escient. Je pense que c'est une nécessité parce qu'au fond, il y a beaucoup de livres qui sortent et les gens ne vont pas aller vers votre livre seulement parce que le titre est joli ou parce que la couverture
est belle. C'est aussi un marqueur social.
Oui, c'est aussi un marqueur social.
Oui.
Et c'est aussi sans doute aussi un marqueur de discrimination, comme tous les marqueurs sociaux d'ailleurs servent toujours à des discriminations, parce que il y a ceux qui n'ont pas d'amis à exhiber sur Instagram, qui n'ont pas de jolies filles dont ils peuvent poster des photos, qui n'ont pas de jolies piscines, qui n'ont pas toutes ces jolies choses-là, parce que bien sûr il y a surtout pour Instagram une sorte de fantasme de la vie idéale qui est porté par ce qu'on appelle des influenceurs, hein, des personnalités ou des pseudo-personnalités qui au fond vont essayer de transmettre cet idéal de la vie idéale. Enfin, de la vie parfaite.
Et qui sont des porte-paroles publicitaires, en fait.
Qui sont en fait des porte-paroles publicitaires, bien sûr. Le commerce la met sa main dans ce genre de réseau. Et puis, ça crée, bien sûr, beaucoup de tristesse, de frustration, parce que comme toutes ces belles vies parfaites, on n'y a pas forcément accès. Et puis, on est en train de se prendre en photo dans la salle de bain. On n'est pas forcément très à notre avantage. Et puis, bien sûr, ça jure avec ce qu'on attend de nous.
C'est pour ça qu'on arrive encore une fois dans ce monde-là aussi binaire, un monde numérique, mais binaire, avec ceux qui ont, ceux qui n'ont pas. C'est aussi ce que dit en toile de fond votre livre, Quentin Mouron, puisque on pourrait tout à fait imaginer que les nomades, effectivement, sont des gens hyper connectés, qui ont empoigné le monde. Et puis, les sédentaires sont ceux qui sont effectivement délaissés des réseaux. Mais au-dessus même du nomade, il y a un homme parfait, c'est le jeune Australien. Il y a toute une séquence où votre héros se questionne sur la perfection et se dit « mais en fait, l'homme parfait, c'est le jeune Australien, parce qu'il est beau, parce qu'il est bronzé, parce qu'il est avec la nature, qu'il empoigne le monde et qu'il traverse même le monde sans l'effleurer. » C'est-à-dire qu'il est vraiment au-dessus de tout. Cette image du jeune Australien symbolise quoi aussi pour vous ?
Oui, je pense que c'est vraiment le surfeur absolu, le mâle alpha ou la femme alpha d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment, je crois que c'était un fantasme. Moi, j'ai vu beaucoup de mes amis partir en Australie, aller se ressourcer. Tout est plus beau en Australie. Les gens sont plus beaux, ils ont les dents plus propres, ils font mieux l'amour, ils bandent plus dur. Enfin, tout est mieux en quelque sorte en Australie. Mais c'est toujours dans une Australie qui est bien sûr dessinée pour les touristes. Hein. C'est comme
trois quartiers de Sydney.
C'est trois quartiers de Sydney, c'est quelques plages. Hein. C'est quelques hotspots de la Golden Coast, hein, vous voyez que j'ai mon quota, donc on a notre quota d'anglicisme pour l'émission. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, hein, c'est-à-dire qu'on recrée un pays, alors que c'est un pays immense, l'Australie, c'est monstrueux. Il y a toutes sortes d'horreurs, il y a une profondeur, il y a qu'à voir les chansons de Nick Cave. Donc c'est un terroir authentique, mais on va découper certaines parties, on va prendre ce qui nous arrange. C'est exactement ce qui s'est passé avec les États-Unis pendant longtemps, où la Californie, au fond, on en a fait cet Eden.
Un idéal, oui.
Oui, un espèce d'idéal. Et puis quand on va. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le bled qui s'appelle California. Parce qu'il y a une ville en Californie qui s'appelle California. Et là, c'est l'enfer de la Californie. C'est vraiment l'enfer, j'allais dire. Mais les deux vont, hein, l'envers et l'enfer. De la Californie, tout est dévasté. Tout tombe. C'est des maisons qui pourrissent sur elles-mêmes. Et en Australie, bien sûr, il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'on reconstruit une sorte de personnage idéal qui est cet Australien, qui est en même temps. Qui parcourt le monde, qui est très sociable. L'anglo-saxon est toujours réputé social. raisonnable, sauf certains, mais en tout cas généralement on a cette image de l'anglo-saxon qui parle, qui a ses talents, qui séduit énormément. Et ça, je pense que c'est vraiment un marqueur, en tout cas pour beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment pour ces cadres qui se cherchent un peu, qui sont pas forcément favorisés par la nature, mais qui se projette dans cet Australien torse nu, bronzé, avec sa chevelure blonde qui perle de sueur. C'est peut-être mon idéal aussi, hein, parce que je suis pas très musclé.
Mais effectivement, c'est l'idéal invoqué dans votre livre. Mais il s'oppose aussi évidemment à l'habitant de Vesoul qui est ivre-mort dans un bistrot et qui peste contre l'Europe, contre les taxes, contre la fin de l'agriculture, enfin à peu près contre tout, quoi. Là aussi, vous mettez en opposition deux mondes, un monde européen, vieux, la vieille Europe, et puis un monde idéal qui serait anglo-saxon, aux antipodes, sous le soleil et peuplé de gens extraordinaires.
Oui, d'ailleurs je crois que le monde idéal parle anglais, un mauvais anglais généralement, c'est pas l'anglais de Shakespeare et non pas non plus l'anglais de Faulkner, donc c'est vraiment un anglais d'ascenseur, d'aéroport, comme ça, quelques phrases clichés, on voit d'ailleurs les... C'est tous ces étudiants en échange qui se rencontrent, qui parlent tous dans cet anglais d'ascenseur, qui se disent des banalités. Toi, tu fais quoi? Oui, moi, je fais des choses, c'est super. Bon, oui, je pense qu'il y a vraiment là deux mondes qui s'opposent. Ceux qui ont accès à la mobilité, à une mobilité digne, donc pas forcément les migrants, justement, mais ceux qui migrent par choix, par plaisir, par mode de vie aussi, presque par obligation existentielle, si j'ose dire. Et ça, c'est vrai que ce sont les gens qui triomphent, en quelque sorte. Et puis, à côté, on a ce monde qui ne peut pas se déplacer. On a ce monde qui est presque perclus dans sa misère, qui n'est pas forcément une misère d'une grande noirceur seulement. Il n'y a pas que ça. Mais il y a cette idée que, au fond, ces gens ne pourront jamais se déplacer, ne pourront pas épouser le mouvement. Mais pas seulement le mouvement physique, mais aussi le mouvement moral, en quelque sorte. Alors, c'est pour ça, je sais qu'on... Je me moque aussi de ce discours, ce patois un peu académique, où on cherche toutes sortes de choses, mais avec un background, en quelque sorte, lexical tellement développé qu'on sait très bien que les gens qu'on prétend défendre ne pourront jamais nous comprendre, et on s'en fait presque un espèce de trophée, en quelque sorte, parce que on creuse en même temps ce fossé, justement, entre les gens, certains, simplement, qui n'ont même pas accès au langage. Hein, au langage. Alors, bien sûr, tout le monde parle le français, il y a les écoles, le service public, tout ça, ça fonctionne. Mais on crée, comme on n'a pas envie de se faire rattraper par ces gens qui parlent notre langue, et ben on crée une autre langue, comme ça ils n'auront pas accès. Comme il faut 5 ans de master en sociologie pour pouvoir poser un diagnostic sur une usine qui ferme, et bien c'est parfait, comme ça on est sûr que les employés de cette usine n'auront rien à dire.
Et puis il y a ceux qui ont compris qu'en passant par la politique, on pouvait aussi se rendre respectable. Il y a toute une scène dans votre roman, Quentin Mouron, dans lequel on a affaire aux gens du Hezbollah à Vesoul, mais qui sont, c'est le Hezbollah présentable, le Hezbollah politique, avec des personnalités élues qui ont compris que ça ne servait à rien de poser des bombes partout, qu'au contraire, on devait passer par la politique. Et au fond, tout le monde recherche la respectabilité. Il y a même de la part de proto-nazis ou de crypto-nazis une volonté de respectabilité. C'est aussi ce monde-là dans lequel on vit, tel que vous le voyez, c'est-à-dire que chacun, quel que soit son extrême, puisqu'on est tous les extrêmes de quelqu'un, revendique la respectabilité et le droit, souvent aussi, à dire des conneries.
Bien sûr, et surtout tout ça sous couvert de respectabilité, c'est-à-dire qu'on va jamais dire qu'on est un, on dirait plus aujourd'hui qu'on est un Reich ou qu'on est quelque chose comme ça. On dit qu'on est une république, la République démocratique de Corée du Nord, on est la République, et chacun essaie de s'agréger finalement au discours dominant qui est au fond à la base le discours libéral d'inspiration anglo-saxonne, c'est-à-dire que même dans les pires dictatures, on essaie toujours de se faire passer pour des démocrates, pour des libéraux, des phrases typiquement qu'on entendait dans les cercles nazis en disant mais on fait la guerre et puis ensuite l'histoire nous donnera raison, ça c'est des choses qu'on ne pourrait plus entendre aujourd'hui, parce qu'au contraire, on va essayer de justifier ça de toutes sortes de manières démocratiques. Quand on envahit un pays, c'est toujours pour amener la démocratie, c'est jamais pour prendre du pétrole. Quand on enferme une partie de la population, c'est toujours pour leur propre bien, et puis pour
les protéger d'eux-mêmes.
Voilà, pour les protéger d'eux-mêmes, donc on est toujours dans ce côté très... Si on doit faire une entorse au libéralisme, c'est toujours pour une raison presque supralibérale, mais qui n'a rien à voir avec la dictature à l'ancienne, en quelque sorte. Donc, au fond, on fait souvent des parallèles avec les années 30, ces derniers temps, et certains sont justifiés, mais je pense qu'il faut bien voir que le langage a changé aussi. Le langage qui est utilisé, même dans les dictatures les plus noires du monde, est toujours le langage de la démocratie et du libéralisme anglo-saxon. Ça, c'était quelque chose qui avait déjà été mis en évidence, dans ce texte de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui disait au fond, qui a été très mal compris, qui a créé beaucoup de malentendus, mais ce qu'il disait, il disait une chose simple et à mon avis fort juste, c'est qu'aujourd'hui justement, chaque fois qu'on fait quelque chose même d'antidémocratique, on utilise toujours le langage de la démocratie pour le justifier.
Ouais. Quentin Mouron, le livre s'appelle Vesoul le 7 janvier 2015. Il sort effectivement le 7 janvier pour de vrai, mai 2019.
Non, alors on n'a pas osé, ça m'aurait semblé un peu de mauvais goût. D'ailleurs, il devait sortir en automne et c'est moi qui ai dû terminer mon mémoire à l'université, j'ai pas pu le sortir assez tôt. Donc il va sortir en France le 8 janvier et en Suisse le 11 janvier.
Très bien, les dates sont posées. Et puis on vous retrouvera très bientôt, ce sera vendredi 11 à 21h dans la nouvelle émission de Christine Gonzalez. Elle s'appelle Question Q, cette émission. Vous y tiendrez la rubrique sexto, le billet d'humeur. C'est bien
oui.
Ça.
Alors j'espère que ce sera une belle humeur. Je me réjouis en tout cas là pour cette première en tout cas de travailler avec Christine Gonzalez qui est en fait la première à m'avoir interviewé. C'était sur Espace 2 il y a quoi 7 ans, 6-7 ans maintenant. Donc pour moi c'est aussi affectif. Ça sera vraiment une année de retrouvailles avec Olivier Moratel, avec Christine Gonzalez. Je suis très content.
Merci d'être venu nous voir, Quentin Mouron.
Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
À très bientôt et d'ici quelques minutes on va retrouver Lynn Lévy. Mais voici pour l'instant Oh. C'est un titre qui annonce un tout premier album à sortir le 1er février prochain. Il s'appelle Olivier Marguerie, alias Oh, c'est un jeune multi-instrumentiste. Mais vous avez entendu, tu sais, je ne sais plus, un jeune multi-instrumentiste, c'est mieux comme ça.
Les livres dans Vertigo.
Vertigo, sur la première.
Bonjour Lynn.
Bonjour Pierre-Philippe.
Troisième jour consacré à ce gros livre, Sexe, race et colonie, paru aux éditions de La Découverte, qui aborde donc cette question essentielle et malheureusement toujours d'actualité de la domination des corps, là en l'occurrence du 15e siècle à nos jours.
Troisième jour, oui Pierre-Philippe, et toujours la même sidération face à cette folie occidentale qui a perduré 5 siècles et dont les résidus, dont certains stéréotypes et certains comportements persistent encore aujourd'hui. Une polémique a éclaté à la sortie de ce livre, c'est une tribune dans Le Monde, une autre dans Libération, et les polémistes, parmi lesquels des historiens, de s'interroger pourquoi montrer ces images choquantes, violentes, pourquoi dévoiler les photographies de ces femmes humiliées dont on a volé à la fois la terre et le corps. Y aurait-il dans cet ouvrage une fascination morbide de la part des 97 chercheuses et chercheurs qui ont élaboré ce livre? Alors hier, Nicolas Bancel, historien à l'UNIL, co-directeur de l'ouvrage, a accepté de leur répondre point par point. Et aujourd'hui, il nous raconte comment la colonie était avant tout considérée par l'Européen comme un paradis sexuel.
Est vendu 270 captifs, dont 136 répartis en 18 lots de 3 à 6 membres. Pour ceux qu'on se disputait, ils ont été vendus aux enchères. Et nous avons tiré de chacun d'eux plus que ce qu'on rapportait de nombreux lots.
Nous avons maintenant une perruche exceptionnelle. Et nous allons là aussi commencer les enchères à 150. 180. 220. 250. 280. 300. 300, 330. Regardez ses seins. Regardez ses seins. Le ventre qui n'a pas été abîmé par la grossesse. Ses fesses dures. et musclé. 350 nous sommes, nous avons 400 ici. 400 personnes ne couvrent l'enchère. 400 adjugés à monsieur Dessart.
Très bel achat, mon oncle.
Regardez son torse.
J'avoue. Elle me faisait envie.
Regardez ses épaules.
Nicolas Bancel, ce qu'on remarque en observant les images produites dans ce livre, Sexe, race et colonie, c'est que le corps du colonisé est considéré comme un objet et le lieu, la colonie, est considéré comme un paradis sexuel racialisé où les femmes autochtones seraient offertes comme des fruits. Tous les tabous sautent une fois qu'on quitte l'Occident. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour le colonisateur, partir, c'est tout s'offrir.
C'est en tout cas la représentation qu'on en donne, et c'est bien souvent la réalité. Puisque les relations à l'intérieur de la colonie au XIXe siècle sont tellement asymétriques que, effectivement, les possibilités, on va dire, sexuelles qui sont offertes aux colonisateurs sont évidemment complètement décuplées par rapport à ce qu'il peut trouver en Occident. Ça se fait dans ce cadre-là, qui effectivement légitime, autorise, encourage la transgression des règles communément admise alors en Europe, aux États-Unis ou au Japon.
Dans le livre, on remarque que cette sexualité débridée dans les colonies offre une alternative à la névrose bourgeoise. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Bancel, que finalement la domination des corps colonisés s'accompagne de la domination des corps des femmes occidentales restées à la maison, ou en tout cas peut-être en Europe, ou en tout cas dans les colonies, qui elles sont contraintes et corsetées? Est-ce qu'il y a ce face-à-face-là?
Il y a ce face-à-face, mais il y a aussi un mouvement culturel plus général. Les règles qui s'appliquaient jusque-là à la bourgeoisie, à partir du début du XIXe siècle, qui sont en fait des règles qui sont transmises par l'aristocratie, ces règles de maintien, de préséance, de tenue, ces règles vont s'affermir plus encore, notamment pour ce qui concerne la sexualité, notamment pour ce qui concerne les règles de fidélité, etc., du mariage, etc. Elles vont s'affermir. Et il me semble que, effectivement, dans les colonies, c'est tout d'un coup, un espace vierge où tout est possible. Voilà. Tout est possible dans tous les sens du terme, aussi du point de vue de la sexualité. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que toute une littérature, tout un imaginaire qui passe par l'image aussi, va catégoriser les colonisés. Alors, on a la petite Kongai, donc la vietnamienne douce, effacée, docile, etc. Et puis, vous avez pour les femmes noires de multiples catégories qui vont de la métisse voluptueuse mais dangereuse jusqu'à la femme noire, on va dire, de racialement inférieure, telle que à l'époque, qui est beaucoup plus proche d'une sexualité pulsionnelle, animale, non raisonnée, qui peut... On a même des livres qui sont écrits là-dessus. C'est ça le plus fascinant, hein, le fameux livre du docteur X, docteur Jacob X, qui va décrire...
C'est un faux docteur.
C'est un administrateur, en fait, qui a parcouru, de par ses fonctions, la plupart des colonies françaises, enfin une partie des colonies françaises, mais à la fois en Asie et en Afrique, et qui établit une sorte de panorama des femmes qui sont, entre guillemets, exploitables sexuellement, en décrivant toutes leurs caractéristiques physiques, leur odeur, leur soi-disant spécialité, etc. On est dans cet imaginaire-là. Donc oui, l'Occident déverse une partie de sa libido dans les colonies, comme elle le fait d'ailleurs avec un autre phénomène qui est aussi décrit dans le livre, qui sont les spectacles ethniques, les fameux zoos humains, où à la fin du 19e siècle, vous avez des hommes quasiment nus et des femmes quasiment nues, ce qui est absolument évidemment impensable dans un spectacle fin 19e siècle en Europe, mais qui est rendu possible par à la fois le prétexte ethnographique, mais aussi parce qu'il s'agit de femmes indigènes. Donc de femmes que déjà on peut exploiter de cette manière-là, érotiser d'une certaine manière.
Sexe, race et colonie, le livre est publié aux éditions de La Martinière. On vous retrouve demain, Lynn Lévy, pour l'avant-dernier épisode de votre série. Pour l'heure, sur la première, voici l'inforoute.
Infotrafic RTS, avec Eni Suisse et ses stations-service Eni Agip, votre partenaire carburant et lubrifiant.
Sur l'autoroute Martigny-Vevey, on roule toujours en accordéon entre Bay et Villeneuve en direction de Vevey. Le temps de parcours est bien sûr allongé et là, on parle d'une vingtaine de minutes. Sur l'axe Bellinzone-Lucerne, 10 km de bouchons. Entre Biasca et le portail sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, 2 heures d'attente environ. On vous conseille de passer plutôt par l'axe du Simplon ou par l'axe du Grand Saint-Bernard. Concernant le ferroutage, enfin, signalons que sur la ligne de la Fourca, l'attente est d'une heure au moins à la gare de chargement d'Oberwald. Pour d'autres informations, n'oubliez pas notre site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On a reçu aujourd'hui Quentin Mouron pour son dernier roman Vesoul, le 7 janvier 2015, publié chez Olivier Moratel, éditeur. Une émission à retrouver sur rts.ch/vertigo, tout comme la série de Lynn Lévy consacrée à ce livre Sexe, race et colonie. Puis vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram sous RTS Vertigo.
La première vous offre l'heure.
Sur la première, il est 18h, voici Forum, présenté par Esther Coco. Bonsoir.